La matinale, l'invité de Joël.
Avec votre invité Joël, vous nous emmenez dans un scénario qu'on n'a pas très envie de découvrir. Bonjour.
Bonjour. Ouais, imaginez, nous sommes en 2022. Un cyclone d'une violence inouïe frappe la côte ouest des États-Unis. Les assurances sont incapables de rembourser les dégâts. Elles font faillite. Elles entraînent dans leur chute tout le système financier. Et comme dans un jeu de domino, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui s'écroule. Ce scénario anxiogène, c'est celui d'Après le Monde, le nouveau roman signé Antoinette Richner, qui est notre invitée ce matin. Bonjour.
Bonjour Joël.
Le scénario que vous décrivez dans ce roman d'anticipation, c'est celui qui est défendu par les collapsologues, un scénario où une catastrophe naturelle va donc tout changer. Et puis vous démontrez finalement que la mondialisation, la façon dont tout est interconnecté aujourd'hui, c'est ce qui va entraîner la chute globale.
Oui, c'est effectivement un scénario qui peut donner un certain vertige, puisqu'il montre l'extrême fragilité de notre civilisation, c'est-à-dire que tout ce qui fait notre quotidien, ce qu'on mange, ce qu'on porte sur nous, nos transports, c'est lié à un seul et même fil économique qui est mondialisé, comme vous l'avez dit, et qui est très fragile. Mais paradoxalement, je pense que ça peut être aussi libérateur de regarder cette réalité-là en face.
Parce que alors là, les assurances, les banques, les transports, les communications, le système de santé, le système éducatif, les états, enfin, rien n'échappe à l'effondrement. C'est un peu comme si le mode de vie occidental du XXe siècle, on va dire de 1950 à nos jours, ça représentait une sorte de parenthèse dans l'histoire, une sorte de parenthèse consumériste, et puis on revient à avant.
Oui, tout à fait, encore qu'il n'y ait pas eu un seul avant, mais je pense que ce serait une erreur de voir l'histoire et le progrès comme linéaire. En réalité, l'histoire obéit à des cycles, on le sait, et il y a déjà eu des civilisations très puissantes dans l'histoire de l'humanité qui se sont effondrées.
Et la nôtre n'est pas à l'abri.
Non, la nôtre n'est pas à l'abri. Aussi puissante qu'elle puisse paraître, elle est fragile.
Alors, dans votre roman, les épidémies, la violence, la famine, tout ça, ça va faire d'innombrables victimes. Mais les survivants, ils vont s'organiser et puis vous montrer que finalement, si tout s'effondre, il y a des valeurs qui restent et puis qu'on peut tendre vers une société où certes, il est difficile de survivre, mais où la solidarité, l'égalité sont des valeurs qui peuvent nous sauver.
Oui, je pense que les grands bouleversements, ils sont inévitables, ils sont là. Après, je pense que déjà maintenant, dans la manière dont on peut se préparer, ces valeurs que vous venez de mentionner, comme la solidarité, sont très importantes. Est-ce qu'on veut, disons, une tactique du chacun pour soi, où des milliardaires peuvent se payer des bunkers en Nouvelle-Zélande et puis les autres, tant pis pour eux? Ou est-ce qu'on veut peut-être se préparer à l'échelle de collectivité, de localité, se préparer ensemble.
Parce que là, c'est ce qui arrive, c'est que bah, comme il n'y a plus de transport, on va se déplacer à pied. Comme il n'y a plus de système de santé, plus de médicaments, on va avoir recours à celui ou celle, souvent celle d'ailleurs, qui a des connaissances au niveau herboristerie, au niveau plante, pour se soigner, pour se soulager. On va devoir vraiment regarder ce qu'on a chez nous, ce qu'il y a chez nos voisins, pour pouvoir continuer à vivre ensemble.
Oui, mais je pense que même sans prendre un scénario aussi catastrophique que celui que j'ai développé dans mon livre, il suffirait d'un petit rien, il suffirait par exemple que le coût des transports monte un peu, et ça serait déjà beaucoup plus difficile de faire venir et des habits et de la nourriture à très bas coût de l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment la question de comment on veut ou on doit, dans le cas de mon livre, les gens ils sont contraints, relocaliser des productions de base.
La matinale, l'invité de Joël.
Auteur de théâtre, de récits, de romans, Antoinette Richner a vu son roman Le Prix, récompensé du prix Michel Dantan et du prix suisse de littérature et de littérature. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour parler de son nouveau roman, Après le Monde. Alors Antoinette Richner, pour ce roman d'anticipation, vous vous êtes beaucoup documentée avec la lecture, par exemple, des théoriciens de l'effondrement, les collapsologues. Mais vous êtes fidèle à votre écriture, qui est souvent destinée à être interprétée sur scène, avec dans ce livre des chapitres qui sont des chants de témoignages, puis des témoignages qui sont rédigés au féminin pluriel.
Oui, tout à fait, le féminin pluriel, c'est un mode important pour moi, pour renverser les codes narratifs habituels, les codes grammaticaux habituels, et puis j'avais envie de montrer aussi des personnages féminins qui soient non pas des femmes objets, mais vraiment des femmes sujets qui sont partie prenante de la société.
Parce qu'il y a deux femmes qu'on va suivre, entre autres, tout au long de ce roman, Barbara et Christelle, qui veulent témoigner de ce qu'était le monde avant l'effondrement et puis de ce qu'il est devenu après l'effondrement, de la façon dont les humains survivants s'organisent, vivent ensemble, et elles rédigent et interprètent ces champs de témoignages.
Oui, je pense que je leur ai un peu fait endosser mon problème, qui était celui d'imaginer ce monde post-effondrement. Donc mon combat d'écriture, c'est devenu leur combat de composition. Et puis cette question d'oralité, je la trouvais capitale également dans un monde où il y a peut-être moins de traces, moins de supports et numériques et papiers, etc.
Et puis dans ce roman, alors parce qu'on est dans un scénario complètement anxiogène, on l'a dit, hein, vous racontez également le monde
d'aujourd'hui. Jubilatoire également, si je peux me permettre, en toute modestie. Je pense que c'est important de se dire que de regarder ces défis et ces risques en face, ça permet aussi de en tout cas, de ne plus fermer les yeux et de se libérer aussi.
Et puis il y a de l'humour, il y a de la dérision, parce que quand vous racontez le monde d'aujourd'hui, celui d'avant l'effondrement, il y a du recul, et puis il y a pas mal d'humour, pas mal d'autodérision. Quand on parle de ce monde où on achète son quinoa en vrac, où on commande sa coupe menstruelle sur Internet, la façon dont vous racontez cela, franchement, ça prête à sourire certaines fois.
Oui, c'est écrit pour. J'aime beaucoup l'ironie, je pense que c'est important. Et puis c'est vrai qu'a posteriori, peut-être dans un monde d'effondrement, nos petits efforts actuels pourraient paraître dérisoires.
Cet effondrement, il est inéluctable. On peut encore le contrer. Est-ce qu'il faut le contrer?
Ça dépend de quels objectifs on parle. Je pense que, par exemple, l'objectif de Paris, la COP21, de ne pas excéder un réchauffement global de 1,5 degré, ça, il faut s'avouer que c'est joué et que c'est perdu déjà. Après, c'est jamais trop tard pour révolutionner plein d'aspects de nos vies. Et là, je pense ce serait naïf de penser que les efforts individuels sont suffisants. Il faudrait vraiment maintenant des cadres juridiques, politiques sérieux.
Alors, vous avez lu Les Collapsologues. Aujourd'hui, vous, Antoinette Richner, vous vous préparez à la fin de ce monde où on va acheter son quinoa en vrac, où on commande sa coupe menstruelle sur Internet, où on part à Barcelone pour le week-end pour 25 francs.
Alors, quand j'ai découvert les théories de l'effondrement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de sueur froide, ce qui est normal. Donc, j'avais un peu la panique survivaliste. Alors, est-ce que je vais enterrer des pâtes dans mon jardin et acheter de l'or avec mes économies? Puis en fait, assez vite, on se rend compte que c'est plus ridicule qu'autre chose, parce que si tout s'effondre, tout s'effondre. Qu'est-ce que je fais réellement? Je soigne mon réseau d'amitié. Je crois que c'est très important pour les coups durs, qu'ils soient à petite ou grande échelle. Et puis, peut-être dans la liste des petits gestes, pour moi, en tout cas au niveau alimentaire, c'est vraiment important de retrouver le contact avec le producteur. Les intermédiaires, c'est ce qui permettra toujours de faire pression sur les producteurs et de manipuler le consommateur. Donc pour moi, par exemple, les légumes, c'est chez un maraîcher bio qui me connaît personnellement. On s'appelle par nos prénoms, on s'entend bien, on discute. Et puis ça va au-delà de la simple relation commerciale.
Après le monde, c'est paru chez Buchet-Castel. Une lecture angoissante mais nécessaire. À noter une soirée rencontre avec la lecture d'extraits. Ça sera vendredi à 18h au Théâtre de Vidi à Lausanne. Et puis deux autres soirées en musique également. 30 janvier et 1er février à l'ABC, à la Chaux-de-Fonds. Antoinette Richner, merci beaucoup.
Merci à vous.
6h-9h, la matinale.